Bonjour à tous, chers frères et sœurs. Bienvenue sur votre chaîne de radio, Radio Réveil. Nous vous bénissons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Shalom à vous qui êtes avec moi sur le plateau. Shalom à Nicey, shalom au frère Akli. Comment allez-vous?
Oh, ça va très bien, frère. Nous bénissons Dieu. Nous rendons gloire à Dieu pour cette réunion. Nous le sommes infiniment reconnaissants parce que nous croyons que c'est lui qui nous amène à être là ce soir.
Alléluia. Ok, gloire au Seigneur.
Alléluia.
Donc, ce soir, nous sommes là pour parler de la suite. Hier, nous avons partagé sur le salut. Et c'était notre première émission dans le cadre de Réveil Radio, Radio Réveil, pardon. Et aujourd'hui, Dieu nous a mis à cœur de pouvoir partager sur le renoncement aux œuvres mortes. Donc sans plus tarder, je voudrais qu'on recommande avec les frères et les sœurs qui nous écoutent, avec toutes les personnes, ces moments, pour qu'on prie ensemble avec ces personnes. Et on va commencer. Seigneur, nous te bénissons pour tous les cœurs qui nous écoutent. Seigneur, merci pour ton amour. Seigneur, nous prions au nom de Jésus que tu disposes des cœurs et que ces cœurs soient touchés par toi, sensibles à ton esprit. Merci pour ton amour et pour ta grâce. Nous te bénissons au nom de Jésus. Amen. Donc sans plus tarder, nous allons commencer notre partage sur le renoncement aux œuvres mortes. Le renoncement aux œuvres mortes. Et comme passage de base, je voudrais prendre le passage qui se trouve dans le livre de Tite au chapitre 2, à partir du verset 11. Alors, Tite 2, alors, un petit bug sur mon logiciel. Je ne sais pas ce qui se passe. Alors, juste un instant. Je vais rapidement réouvrir ma Bible. Donc, nous sommes dans Tite, au chapitre 2. Gloire au Seigneur, c'est bon. À partir du verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la justice et la piété. Alléluia. La Bible nous dit que la grâce de Dieu, qui est la source de notre salut, la source du salut pour tous les hommes, a été manifestée. Ici, on nous parle de Jésus-Christ qui a été manifesté. La Bible nous dit que Christ a été manifesté en chair. Donc, Christ a été manifesté. La Bible nous dit que il a été crucifié, il a été enseveli, mis dans le tombeau et au troisième jour, il est ressuscité. Mais cette grâce, ce salut dont nous avons parlé, ce salut qui est annoncé par tous les enfants de Dieu dans le monde, à la demande du Seigneur Jésus, la Bible nous dit que lorsque nous avons accepté, nous avons reçu le salut de Dieu par Jésus-Christ, ce salut, cette grâce du Seigneur que nous avons reçue, d'accord, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. C'est ce que Dieu attend de tous les hommes. C'est-à-dire que lorsqu'on accepte le Seigneur, qu'on se convertit, qu'on reconnaît Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, ce que Dieu attend de nous, c'est de vivre dans la sainteté. C'est de pouvoir renoncer à son ancien être, à l'homme ancien, comme dit la Bible, pour marcher selon la parole de Dieu. C'est ce qu'on appelle le renoncement aux œuvres mortes. Renoncer aux œuvres mortes. Donc Dieu attend de chacun de ses enfants de pouvoir vivre loin des œuvres mortes, loin de ces œuvres-là. C'est ce que Dieu attend de chacun de ses enfants. Et c'est de ça dont nous allons parler aujourd'hui. C'est quoi les œuvres mortes? Mais pour définir d'abord les œuvres mortes, Ce sont les œuvres qui conduisent à la mort. Autrement, pour simplement expliquer, ce sont les œuvres qui conduisent à la mort, à la seconde mort, à la mort spirituelle. Parce que tous les hommes, en dehors de ceux qui connaîtront l'enlèvement, mourront physiquement. Mais la Bible nous dit dans Apocalypse que ce sera la seconde mort dans Apocalypse chapitre 20. D'accord ? Que tous ceux qui ne seront pas trouvés dans le livre de vie seront jetés dans l'étang ardent de feu et ce sera la seconde mort. Donc les œuvres mortes, ce sont les œuvres qui vont condamner les hommes à être jetés dans l'étang ardent de feu. Et ces œuvres-là, la Bible les cite. Et pas toutes, parce que Pierre, Paul continue en disant il y a des choses semblables. Oui, la Bible nous dit que ceux qui sont cupides, idolâtres, voleurs, menteurs, impudiques, ceux qui ont l'amour de l'argent, parce que la Bible nous dit dans 1 Timothée 6 que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Vous voyez donc, l'amour de l'argent, la Bible dit que c'est une cupidité. Donc on reviendra plus en détail au fil de l'émission pour pouvoir expliquer ces choses, mais c'est de ça dont nous voulons parler, du renoncement aux œuvres mortes. Parce que chaque enfant de Dieu qui vient dans le Seigneur a besoin de renoncer à son ancienne vie pour marcher, non plus selon comme il marchait avant, mais qu'il marche maintenant selon le Seigneur. Alléluia. C'est ce que Dieu attend de nous. Et donc, dans ce même élan-là, je vais donner la parole aux frères en introduction, s'ils ont également quelque chose à dire. Vous avez la parole, hein, les frères, en toute liberté. Hein.
Alléluia. Oui, en effet, nous sommes là, nous parlons des œuvres de la repentance. On ne peut pas parler de la repentance quand on n'est pas compris pourquoi l'on doit se repentir. Or, nous avons débattu de ce sujet hier et nous avons appris que nous trouvons la repentance par le fait que nous avons regardé à la grâce de Dieu. La grâce de Dieu s'est révélée en nous par Jésus-Christ qui est mort. Or, lorsqu'il est mort, en effet, c'est qu'il a pris sur lui toutes nos iniquités. Il est mort pour nos péchés. En effet, Dieu lui a condamné et lui a fait porter nos péchés. Qu'est-ce qu'on a observé dans cette mort? On a observé un miracle potentiel venu de Dieu qui a fait que lorsque Jésus est mort, il a manifesté l'amour profond que Dieu a pour nous. Or, c'est en comprenant cet amour qu'on se rend compte à l'évidence qu'on a besoin de pouvoir ressembler à celui qui nous a aimés au départ. C'est pourquoi, lorsqu'on se repent, on a besoin de vraiment aller à la continuité de la nouvelle naissance que nous avons reçue de Dieu. Cette nouvelle naissance est liée directement à une pratique d'œuvre juste. Et c'est ce que le frère venait de lire, louange et gloire soit rendue à Dieu, parce qu'il y a des œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous, que nous devrions pratiquer après que nous ayons reçu la grâce de Dieu. Et ces œuvres sont vraiment d'une importance capitale, parce qu'on ne peut déterminer notre vie que par le fait que nous aurions des œuvres qui démontrent notre foi. J'ai béni Dieu, je crois que c'est d'abord pour moi l'introduction que j'apporte par rapport à ce sujet sur les œuvres de la repentance. Béni soit Dieu.
Ok, donc on va prendre un passage dans le livre de Matthieu chapitre 3. Je vais lire le verset 8. Il est écrit « Produisez donc du fruit digne de la repentance. » Produisez donc du fruit digne de la repentance. C'est Jésus ici qui va parler aux pharisiens qui venaient... Alors, est-ce que c'est Jésus ou c'est Jean? Alors, je vais relire le contexte. Non, c'est Jean. Mmh. C'est Jean qui baptisait et ces gens venaient auprès de Jean et beaucoup venaient se faire baptiser. Mais dans leur cœur, comme malheureusement ça peut arriver à tous les humains, et nous ne sommes pas là pour condamner, mais pour interpeller et encourager, qu'on peut avoir pris le baptême, mais on ne produit pas les fruits dignes de la repentance. Et c'est une attente du Seigneur que nous puissions produire des fruits dignes de la repentance. Donc Jean va leur dire, produisez donc du fruit digne de la repentance, et va aller plus loin. Il va aller plus loin, il va dire, produisez donc du fruit digne de la repentance, et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Parce que ces gens ne voulaient pas produire le fruit digne parce qu'ils avaient des motifs. Vous savez, on va prendre des exemples concrets pour, même si on va au fur et à mesure évoluer dans la lecture des Écritures, mais l'Évangile est pratique et il faut qu'on arrive à parler de ce que les gens vivent. Les faits, c'est qu'on va par exemple constater qu'il y a des personnes qui ont pris la décision de suivre Jésus, mais qui vivent encore entraînant les choses du passé. Je m'explique. Je vais prendre un exemple. C'est quand même la chose qui embête beaucoup les gens. La Bible nous dit que quelque péché que l'homme ait commis, il le fait en dehors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. En fait, la Bible caractérise le péché de l'impudicité à un certain niveau. Tous les péchés mènent en enfer, mais les conséquences de chaque péché n'est pas le même, en fait. Donc, on n'est pas en train de dire qu'il y a des péchés qui n'amènent pas en enfer, non. On dit juste que les conséquences de chaque péché ne sont pas les mêmes. Et donc, on constate que certaines personnes qui ont accepté le Seigneur ont décidé de suivre Jésus, mais par exemple, vivent encore maritalement, c'est-à-dire ils ne sont pas mariés, mais ils vont continuer à coucher avec la femme avec laquelle ils vivent,
en effet.
Ou la femme va continuer à coucher avec l'homme avec lequel elle vit, sans être mariée. Donc ça, Dieu dit, produisez donc du fruit digne de la repentance. Et ne dites pas en vous-même que nous avons Abraham pour père. Parce que souvent, quand on discute avec ces personnes, et on les comprend humainement, mais sauf que bibliquement, nous ne les comprenons pas. Et le Seigneur lui-même n'accepte pas cela. Et les gens vont souvent dire, oui, mais c'est ce monsieur qui s'occupe de moi. C'est lui qui prend en charge mon loyer. C'est lui qui s'occupe de faire ceci, de faire cela. Nous comprenons justement le besoin social qu'il y a. Mais nous parlons ici du salut, de l'éternité et de plaire à Dieu. De montrer à Dieu que nous avons accepté le sacrifice qu'il a donné à la croix en donnant son fils et que nous décidons de marcher en nouveauté de vie en suivant Jésus. Et sauf que malheureusement, on trouve beaucoup de gens qui sont chrétiens parce qu'ils disent avoir accepté le Seigneur, sauf qu'ils marchent encore comme dans le passé. Il y a des gens qui disent qu'ils ont accepté le Seigneur, qui étaient dans l'ivrognerie et qui continuent à s'enivrer. Il y a des gens qui disent avoir accepté le Seigneur, qui étaient dans le mensonge et qui continuent à mentir. Il y a des gens qui disent avoir accepté le Seigneur, qui étaient dans l'escroquerie et qui continuent à escroquer. Ça, on n'a pas encore renoncé aux œuvres mortes. Et c'est pourquoi le Seigneur veut que nous parlons de ces choses pour interpeller les frères et les sœurs, ceux qui disent avoir accepté le Seigneur, doivent prendre la décision de renoncer à ces choses de façon définitive. Pourquoi? Parce que la Bible dit que nous devons pratiquer des bonnes œuvres. Parce que la Bible va plus loin. Au verset 10, il est écrit, « Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jetés au feu. C'est ce qu'on vous disait en entrée. Qu'à la fin, les œuvres mortes ont pour objectif de condamner les gens à aller en enfer. Or, les œuvres mortes, ce ne sont pas des œuvres de Dieu, ce sont les œuvres de l'ennemi, les œuvres de la chair, les œuvres de Satan. La Bible nous dit que la chair, donc la Bible nous parle de la chair, ce sont les désirs qui viennent de l'ennemi. Donc les désirs qui viennent du péché. Or, le péché a été produit par l'ennemi et l'homme l'a accepté. Et la Bible nous dit que les œuvres de la chair sont contraires à ceux de l'esprit et ils sont tous deux opposés afin que vous ne fassiez pas la volonté de Dieu. D'accord ? Dans Galates. Donc, en fait, il faut comprendre que les œuvres mortes vous éloignent de Dieu. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens veulent voir Dieu agir dans leur vie, mais ne sont pas prêts à accepter de laisser Dieu travailler. Si vous voulez voir Dieu agir dans vos vies, vous voulez voir le Seigneur intervenir dans vos familles, dans vos couples, dans beaucoup de choses, dans les domaines de votre vie, pour votre salut, vous devez renoncer aux œuvres mortes. Donc, la Bible nous dit ici de porter du fruit digne de la repentance. Je vais prendre un autre passage. On va aller dans le livre de Colossiens, au chapitre 3. C'est pas ma Bible, là. Il y a un problème. Colossiens, chapitre 3. Colossiens chapitre 3, on va lire à partir du verset 5. Je vais commencer à partir du verset 3, pour qu'on comprenne bien. Je vais même commencer à partir du verset 1, pour qu'on... Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous étiez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Alléluia.
Amen.
La Bible nous dit, si nous sommes ressuscités avec Christ, nous devons rechercher les choses d'en haut et nous devons renoncer aux choses qui sont sur la terre. On nous demande de nous affectionner, au verset 2, de nous affectionner aux choses d'en haut. L'affection, aimer, préférer, choisir d'abord, c'est ça l'affection. Les choses d'en haut. Et la Bible nous dit, recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Et la Bible nous dit de ne pas aimer celles qui sont sur la terre. Pourquoi ? Verset 3, parce que nous sommes morts et notre vie est cachée en Jésus-Christ. Lorsque nous devenons chrétiens et que nous nous faisons baptiser, la Bible dit, nous mourons avec Christ et nous ressuscitons avec lui en nouveauté de vie. Donc, étant morts, nous sommes non seulement morts en l'esprit, mais nous sommes morts dans notre chair. Alléluia. Et donc, nous ne sommes plus esclaves du péché. La Bible dit, nous ne sommes plus esclaves du péché pour lui obéir. En fait, beaucoup de chrétiens tombent dans le piège de la chair qui leur parle et ils se disent que non, ce n'est pas possible ou que Dieu va faire. Non, mais Dieu a déjà fait. Dès lors que Dieu t'a sauvé, dès lors que Dieu t'a attiré à lui, Dieu a déjà fait le travail. Et il a mis en toi son Esprit Saint pour que tu puisses être dans l'incapacité d'aimer le péché. Maintenant, c'est des choix que personnellement tu dois faire. La Bible dit renoncer. La Bible ne dit pas, dites à Dieu de renoncer à votre place. La Bible dit renoncer donc. Donc c'est nous, vous, moi, frères et sœurs, qui devons prendre l'initiative de renoncer à ces choses. C'est un choix individuel. Je l'ai fait. Les autres avant nous l'ont fait. Ceux qui viendront après nous le feront. Tu peux le faire, mon frère, ma sœur, toi qui es dans une situation difficile. Tu peux le faire. Tu peux renoncer à ces choses. Pourquoi ? Parce que tu es mort avec Christ. Et la Bible dit, si tu le fais, quand Christ paraîtra, alors tu paraîtras aussi avec lui dans la gloire. Alléluia. Donc nous ne renonçons pas à ces choses pour rien. Nous avons une espérance vivante et réelle d'être avec Jésus pour l'éternité. Une espérance vivante d'être avec Jésus. Alléluia. Renoncer au mal, renoncer à la vie du monde n'est pas une vie de privation. C'est une vie pour la préparation de la gloire à venir. Une vie sur la terre, pour les plus robustes de la Bible, elle est de 120 ans. Mais nous préparons l'éternité. Cette vie qui commence et qui n'a pas de fin. Cette vie qui commence et qui est dans la joie jusque dans l'éternité. On ne pourra même pas compter parce que ce sera l'éternité de l'éternité. Alléluia. Et la Bible nous dit au verset 5 de faire donc mourir les membres qui sont sur la terre. Et là, ce sont, vous allez voir que dans tous les passages où Paul parle de ces choses-là, comme dans le livre aussi de Philippiens, vous allez voir que Paul cite toujours en premier l'impudicité. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, l'impureté, les mauvaises pensées. Il y a des gens qui soupçonnent beaucoup, qui voient le mal partout. C'est un péché. Il faut renoncer à cela. L'impureté, regardez les télénovelas, les nano TV, regardez les films, les séries où les gens s'embrassent, qui viennent créer les désirs de la chair. Il faut renoncer à cela. Les feux de l'amour, il faut renoncer à cela. Top modèle, il faut renoncer à cela. Suivre les filles Kardashian, il faut renoncer à cela. Quand on devient enfant de Dieu, on meurt en nous-mêmes. Et ces choses qui sont des péchés, parce que c'est un péché, il faut les abandonner. Il faut les abandonner. Et la Bible dit qu'il faut aussi renoncer aux passions. Les passions, les mauvais désirs. Nous avons des désirs, nous voulons manger, c'est un bon désir. Mais nous avons aussi des mauvais désirs. Il faut renoncer aux mauvais désirs. Et chacun dans son cœur sait quand un désir est mauvais. On le sait. Fumer, se droguer, aller en boîte de nuit, ce sont des désirs. Mais ce sont des mauvais désirs. Et la cupidité, l'amour de l'argent, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une idolâtrie. Dieu n'aime pas l'idolâtrie. Dieu n'aime pas l'idolâtrie. Vous voyez? Et on nous dit que c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les hommes. Donc, frères et sœurs, nous vous interpellons, nous vous encourageons. Nous ne sommes pas là pour vous condamner. Nous vous interpellons parce que c'est la parole du Seigneur. Nous voulons que tous ensemble, dans la joie et dans la félicité, nous soyons avec Jésus-Christ de Nazareth, dans son royaume, pour l'éternité avec lui. Et nous nous réjouirons pendant les noces de l'agneau. Et nous nous réjouirons avec lui dans son royaume quand nous serons avec lui pour l'éternité. Alléluia, mes frères et mes sœurs.
Si je prends du bois,
Alléluia, nous bénissons Dieu. C'est vraiment une évidence, la vie que nous avons reçue en Christ Jésus. Elle est vraiment, vraiment, vraiment très, très importante. Et le nouveau croyant doit comprendre que cette vie est une vie de qualité, à l'image de la gloire de Dieu. Je vais prendre un texte ici, dans Romains 6. Romains 6 dit ceci. Je vais lire à partir du verset 1. Que dirons-nous donc? Demeurerons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts pour, par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons nous aussi par la conformité à sa résurrection. Voyez-vous, frères, le fait qu'on a reçu la grâce de Dieu, qu'on a reçu Christ dans notre vie, nous amène directement à vivre une vie semblable à lui. Or, cette vie, nous ne pourrions pas la vivre de nous-mêmes, en effet. Nous ne pourrions la vivre que par la grâce de Dieu, que sous la grâce de Dieu. Or, la grâce de Dieu devrait se vivre comme suite. Nous devrions généralement avoir les regards fixés sur Christ, qui, lui, nous a rachetés de tous nos péchés. C'est vrai, le fait qu'il nous ait rachetés de tous nos péchés, c'est ce que Paul dit ici. Ça ne veut pas dire de suite que nous devrions continuer à pécher. Non, pas du tout. Mais ça veut dire que nous devrions nous adapter à la nouvelle vie qu'il nous a donnée par sa mort. Or, cette nouvelle vie nous amène directement à toujours regarder à lui et à nous laisser conduire par la puissance de cet amour qu'il a eu pour nous à la croix. En fait, je crois, pour essayer de nous aider tous, que cette vie ne peut pas se vivre par nos propres efforts. Sinon, ce serait pour nous une part d'orgueil. Mais elle se vit par l'effort que Christ a adopté à la croix. Lorsque Christ est mort, en fait, il a fait mourir le pouvoir du péché. Et à la continuité de la lecture, c'est ce que cela dit. Elle dit que le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Avant, elle pouvait dominer sur nous. Mais là, elle ne peut plus dominer sur nous parce que Christ a triomphé d'elle. Christ a triomphé de lui, du pouvoir du péché. Aujourd'hui, ce que nous devrions faire, frères, sœurs, c'est de juste fixer nos regards sur lui et de nous adapter à ce qu'il nous demande de faire. En effet, si on essaye de pouvoir nous concentrer sur chaque œuvre à accomplir comme étant figé à la loi, il serait très difficile, bien entendu. Pourquoi ? Parce que, en effet, sur cette base, nous aurions toujours à vouloir nous élever en nous-mêmes et puis l'ennemi qui sait comment, avec l'habitude de la chair, bien entendu, sera toujours nous soumettre à la chair. Mais si nous fixons nos regards sur Christ, en effet, nous nous adapterons au mode de vie que Jésus apporte en nous par son esprit. Parce que c'est en effet un nouveau mode de vie. Le Saint-Esprit étant en nous, nous amène à désirer, à vivre une vie sainte pour la gloire de Dieu. Et nous devrions la vivre. Au verset 14, il est dit, au même chapitre, « Car le péché n'aura point... Le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » En effet, le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Seulement si nous arrivons à nous soumettre, c'est simplement parce que nous n'avons pas pris conscience entièrement de l'évidence de l'amour que Dieu a porté pour nous à la croix au calvaire. Vous savez, frère, lorsque j'observe les Écritures, quand je me remets sur ce texte du chapitre 4 de Jean, lorsque Jésus parlait avec la femme samaritaine, c'est vraiment cette évidence de la nouvelle vie que Dieu nous a donnée. Qu'est-ce qui s'est passé à ce jour? Jésus rencontre la femme samaritaine un jour au puits. Elle vient à une heure de midi, à peu près. Et lorsqu'elle vient à cette heure, c'était pour puiser de l'eau. Jésus étant là, s'adresse à elle en lui disant, est-ce que tu peux me donner à boire? Et cette femme de lui dire, non, Jésus d'abord de continuer à dire, si, est-ce que tu sais qui te demande à boire? Excusez-moi, est-ce qu'on peut lire? Parce que le texte me vient en tête, mais ce serait bien qu'on le lise. Mm. Jean 4. Pour que j'aie à me souvenir de tout ce qui est dit. Jean 4, s'il vous plaît. Ok, je vais lire le texte. Puis il arrive à une ville de Samarie qui est appelée Sychar, près de la parcelle de terre de Jacob, que Jacob avait donnée à son fils Joseph. Là était le puits de Jacob. Jésus, donc, étant fatigué de son parcours, s'assit ainsi sur le puits. C'était environ la sixième heure. La sixième heure, c'est midi, hein. Une femme de Samarie vint pour puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Alors la femme de Samarie lui dit, comment est-ce que toi, étant juif, me demandes à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Car les juifs n'ont pas de communication avec les samaritains. Jésus répondit et lui dit, si tu connaissais le don de Dieu, c'est là où je vais en venir. Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te demande à boire, tu lui auras demandé, toi, de te donner. Tu lui auras demandé à boire. Tu lui auras demandé et il t'aurait donné de l'eau vive, en effet. La femme lui dit, maître, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné à ce puits et qui a bu lui-même ainsi que ses enfants et ses troupeaux? Jésus répondit et lui dit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Or, que veut dire Jésus là? Il est en train d'exprimer une chose profonde. Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Jésus est en train de parler en fait des œuvres mortes, des œuvres que palpables, matérielles en fait. L'eau que la femme proposait, c'est l'eau qui était dans le puits. Or, Jésus ne lui parlait pas de l'eau qui était dans le puits. Jésus lui parlait d'une eau spirituelle. Mais quiconque boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. C'est quoi, en fait? La relation que va tisser Jésus avec cette dame est une relation qui amène directement à comprendre l'amour de Jésus pour cette femme. Quand on voit de plus loin l'histoire de cette femme, elle était une femme qui avait eu plusieurs hommes dans sa vie. Et sa vie n'était pas propre, s'il fallait le regarder selon la loi, n'était pas propre selon Dieu. Mais quand même, Dieu étant, ne lui a pas interpellé sur le fait que sa vie n'était pas propre. Dieu lui interpelle simplement sur le fait que elle avait besoin de boire de l'eau qui coule en abondance et qui ne tarit jamais. Jésus ne l'a pas permis de tenir compte de son attitude, de sa vieille nature, mais Jésus l'appelle juste à prendre conscience qu'elle a besoin de boire une eau qui donne la vie. En fait, c'est juste pour dire que si nous observons l'amour que Jésus a pour nous, nous comprendrions dans l'évidence pourquoi en fait refuser les œuvres mortes. Moi, j'ai envie de témoigner par rapport à ma personne. Vous savez, chaque fois que je m'approche de la croix et que j'observe la grâce, je me mets de suite à pleurer parce que je vois la grandeur de l'amour de Dieu. Et je vois combien Dieu m'a aimé. Ça m'amène directement à repudier tout ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu ou à la volonté de Christ. Christ veut que nous soyons des êtres semblables à lui. Il sait pour cela que lorsque nous étions attachés à nos œuvres mortes, cela nous amenait à une condamnation éternelle. Cela nous amenait à une vie d'ailleurs qui n'était même pas une vie de joie et de paix sur la terre. Elle nous amenait dans la tristesse continuelle. Or, lorsque on demeure dans la grâce de Dieu et qu'on demeure soucieux de l'amour que Dieu a pour nous, on se sent attirés à l'évidence à vouloir mener la vie que Dieu nous demande. Parce que Dieu veut que nous soyons aussi saints comme il est saint. Mais je sais à l'évidence que nous ne le pourrions de nous-mêmes. Mais si nous continuons à regarder à Christ, nous le pourrions par sa grâce. Parce que c'est lui qui nous donne cette force. Comme je disais, mon témoignage, à mon départ en Christ, j'ai tellement forcé à vouloir mener une vie conforme à Dieu. J'étais même très radical, quitte au principe d'être saint, comme Dieu est saint. Et dès lors que quelqu'un se mettait à pécher au milieu des frères, j'étais prêt, j'étais dynamique à vouloir répondre, à dire, non frère, pourquoi est-ce que tu te laisses entraîner par la chair? Et puis de suite, Christ m'a repris en fait. Pour ne pas être long, Christ m'a repris. Il m'a amené à comprendre. Parce que moi-même, je n'étais pas conforme à Dieu. Car dans mes pensées, je n'étais pas toujours celui que Dieu attendait. Souvent, on pense que le péché s'arrête sur la pratique des œuvres mortes, mais c'est aussi dans les pensées. Dès lors que tu as des mauvaises pensées, comme disait le frère tout à l'heure, tu es dans le péché en fait. Or, pour dominer cela, regarde à Christ, regarde à la croix. Observe la grandeur de l'amour qu'il a eu pour toi, frère, sœur. Il nous aime tellement, tellement il nous aime, tellement il s'est offert que le désir profond qui revient dans le cœur de celui qui a compris cela, c'est de vouloir l'aimer aussi en retour. Je vais d'abord m'arrêter par là. Que Dieu soit béni.
Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La parole de Dieu est tellement pure, elle est tellement puissante que, comme pouvait dire les disciples, nous n'avons pas de puissance contre la vérité, mais nous n'en avons que pour la vérité. Et la vérité, Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Lorsqu'on connaît la vérité, en Jean 8, 32, on est affranchi. On est affranchi. La vérité a pour objectif de nous affranchir, de nous libérer, de nous amener à ressembler au Seigneur Jésus. C'est vraiment ça l'objectif de la vérité que le Seigneur nous donne. Le Seigneur dit dans Matthieu, chapitre 16, verset 24, « Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Et le renoncement aux œuvres mortes, comme le Seigneur le dit là, il faut que la personne ait envie de suivre Jésus. Est-ce que tu veux suivre Jésus? Est-ce que Jésus est plus important que tout? Est-ce que tu es prêt à tout abandonner comme on fait Pierre? Pierre était un entrepreneur. Pierre, c'est vrai que la pêche n'était pas toujours fructueuse tous les jours, mais c'était de ça qu'il vivait. C'était son métier, c'était un chef d'entreprise, un pêcheur. Jean et son frère, ils travaillaient avec leur père. Donc on va dire, c'est les employés de leur père et des futurs chefs d'entreprise, parce que le jour où leur père devait mourir, ils devaient continuer le business. Et la Bible nous dit que ces gens, quand ils vont faire la pêche miraculeuse, malgré tous les poissons qu'il y avait dans le filet, ils vont tout abandonner. Tout. Et c'est ce que Jésus dit ici, là. Qu'au-delà, et c'est le passage qu'on a lu tout à l'heure, qu'on ne doit pas se soucier du lendemain. Non pas qu'on ne doit pas penser à travailler, mais que ce souci du lendemain ne soit pas au-dessus de notre salut. Et Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, c'est-à-dire s'il veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Renoncer à soi-même. Renoncer aux choses qu'on aime. Renoncer aux choses qui nous font plaisir. Ce qui est agréable pour notre chair. Nous devons pouvoir renoncer à cela pour suivre le Seigneur. Et c'est là où c'est souvent difficile. Renoncer à soi-même. Mais Seigneur, si je laisse ça, comment je fais? Mais fais confiance au Seigneur.
Amen.
Fais confiance au Seigneur.
Amen.
Fais confiance au Seigneur. La Bible nous dit que Dieu nourrit les oiseaux du ciel. Que s'il nourrit les oiseaux du ciel, combien ne prendra-t-il pas soin de nous qui sommes ses enfants? Alléluia.
Amen.
Le Dieu que nous servons, c'est le Dieu qui a béni Abraham, qui a béni David, qui a béni Jacob, qui a béni toutes les personnes que nous voyons dans la Bible. C'est le même Dieu qui bénit les gens que nous voyons autour de nous. C'est le même Dieu. Et je crois que chacun pour sa part avons écouté un témoignage un jour de quelqu'un qui a dit « C'était difficile, mais j'ai tout laissé pour suivre Jésus. » Il faut renoncer à soi-même. Et Jésus dit, par la suite, il ne faut pas seulement renoncer, il faut se charger de sa croix. Tu renonces, mais tu te charges aussi de ta croix et tu suis Jésus. Il faut renoncer, porter la croix. Et il y a une petite vidéo qui passe sur Internet que j'avais vue, où en fait c'était des chrétiens qui portaient des croix et chacun se disait à un moment, la croix est trop lourde. Et il y en a qui prenaient la scie et qui coupaient la croix pour se décharger. Parce qu'en fait, ils estimaient que bon, si je coupais un peu une partie, c'était toujours une croix. Et en fait, ils illustraient pour dire qu'ils sont arrivés à un moment dans un ravin et il fallait traverser. Sauf que la croix qu'on leur avait donnée était la bonne dimension pour la mettre sur le trou et traverser pour aller de l'autre côté. Donc la croix que nous portons, ce n'est pas une croix qu'on dimensionne nous-mêmes. C'est Jésus qui la dimensionne parce que les endroits par lesquels nous allons passer, nous aurons besoin parfois de la mettre pour pouvoir traverser, aller de l'autre côté. Si tu ne portes pas ta croix, tu vas avancer, tu vas rencontrer les obstacles, tu ne pourras pas traverser parce que tu n'as pas la croix. Un chrétien qui veut suivre Jésus, qui veut voir Dieu agir dans sa vie, doit porter sa croix. Et je vais prendre un autre passage de la Bible. Alors, je vais lire dans Philippiens chapitre 3. La Bible dit, on va lire à partir du verset 6. Non, je vais lire au verset 7 directement. Paul dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Amen. Alléluia.
Amen.
Tout ça là, Paul dit qu'il a fait, c'est pour un seul objectif, hein, pour parvenir à la résurrection d'entre les morts. Paul dit là, tout regarder comme la boue. Renoncer, c'est laisser les choses et les considérer comme étant la boue. Qu'est-ce qui te retient? Tu voles. Pourquoi? Parce que tu veux avoir le dernier téléphone, laisse le téléphone. Tu es accroché à une copine parce que tu veux satisfaire ta chair, laisse ça. La Bible nous dit au ciel, il n'y aura pas de mari, il n'y aura pas de femme. Les hommes seront comme des anges. Le mariage, Dieu l'a fait sur la terre pour qu'on s'en réjouisse. Mais si on veut se réjouir des choses qui sont censées être dans le mariage, il faut se marier. Si c'est difficile financièrement, il faut d'abord arrêter, prier Dieu. Dieu est celui qui ouvre les portes. La Bible dit qu'il ouvre une porte là où tout est fermé, et il ouvre une porte que personne ne peut fermer, pardon, et il enferme une que personne ne peut ouvrir. Dieu est celui qui ouvre les chemins pour ses enfants. Lorsque le peuple d'Israël est arrivé au bord de la mer et que Pharaon et son armée étaient en train de les attaquer, ils ont crié à Yahweh, ils ont crié à l'Éternel et Dieu a suscité par Moïse que la mer devait s'ouvrir et ils ont traversé la mer. Dieu ouvre pour ses enfants des portes nouvelles. Dieu ouvre pour ses enfants des chemins nouveaux pour que ses enfants qui sont dans la crainte soient rassurés et bénis. Pour être béni, ce n'est pas le problème des sorciers. Laissez les sorciers là où ils sont. La sorcellerie existe. Mais le problème, ce n'est pas les sorciers. Si le sorcier t'atteint, c'est parce que tu ouvres une porte. Et cette porte, ça s'appelle le péché. Ça s'appelle les œuvres mortes. Ça s'appelle les œuvres qui ne glorifient pas Dieu. Laisse le concubinage. Si vous êtes en, tu vis avec une femme depuis des années, mais il faut l'épouser. Si tu n'es pas en capacité de l'épouser maintenant, ben arrêtez tout rapport sexuel. Et non seulement tu arrêtes les rapports sexuels, homme, femme, mais aussi tu gardes tes pensées pures. Parce que la Bible dit, quiconque regarde une femme pour la convoiter dans son cœur a déjà commis l'adultère avec elle. Donc on peut ne pas aller sexuellement avec une femme, mais on peut être dans le péché parce que les pensées sont impures. C'est pourquoi dans Colossiens 3 qu'on a lu, on a bien vu que la Bible nous parle de l'impureté. Parce que les pensées impures, la pornographie, il faut laisser. Il faut laisser la pornographie. Beaucoup de jeunes chrétiens sont attachés à la pornographie. La masturbation. Beaucoup de gens, même des hommes mariés, des femmes mariées, sont esclaves de la masturbation. Il faut laisser ces choses. La fin de ces choses, c'est l'enfer. Il faut renoncer à ces choses. Dieu n'aime pas ces choses. La pornographie, même si tu es marié, tu ne peux pas regarder la nudité de la femme de quelqu'un. Ce n'est pas possible. C'est un péché. Si on t'a dit que c'était autorisé en tant que chrétien, non, je te le dis, ce n'est pas autorisé. C'est un péché. C'est un péché. C'est un péché. Il faut renoncer à ces choses. Il faut renoncer au vol. Mais quand on se convertit aussi à quelque chose qu'il faut, auquel il faut renoncer, auquel on ne parle pas souvent, il faut renoncer à la paresse. Alléluia. La paresse est un péché. La Bible nous dit un peu manger, un peu croiser les mains, un peu s'assoupir. Et la pauvreté te surprendra. Et la pauvreté sera après une source que Satan va utiliser pour t'amener dans la séduction et te faire tomber dans le péché. Et tu diras, mais Dieu n'a pas pourvu à mes besoins. Non. Et qu'est-ce que Paul dit? Il dit que celui qui dérobait ne dérobe plus. Je vais lire, je vais retrouver le passage. On va le lire. C'est dans Éphésiens. Alors, Tu peux lire? Et donc, on comprend en fait que l'un des problèmes, par exemple, pour les femmes qui ont du mal à quitter les foyers parce qu'elles sont prises en charge par les hommes, c'est parce que certaines ont perdu l'habitude de travailler. On n'est pas en train de condamner les gens, mais j'ai envie de dire, quand une femme est restée dans un foyer pendant 10 ans et qu'elle n'a plus l'habitude d'aller travailler à l'extérieur, bien qu'elle travaille dans sa maison, qu'elle s'occupe de sa maison, mais ça veut dire qu'en plus de ça, elle va devoir aller travailler quelque part. Donc, elle va devoir travailler deux fois plus. Et elle va devoir prendre en charge l'ensemble de ses dépenses. Et ça, c'est, on sait que humainement, ce n'est pas forcément toujours évident. Mais la Bible nous dit que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais qu'il travaille de ses propres mains. Pourquoi ? Parce que c'est important. Je voudrais prendre un autre passage, parce qu'on tire bientôt à la fin. Dans Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 17, je lis. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Ce que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impurité joint à la cupidité. Mais vous, vous enfants de Dieu, nous enfants de Dieu, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus-Christ, c'est à lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard de votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créant selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Alléluia. Dieu nous appelle à la sainteté. Dieu nous appelle à la sanctification. C'est ce que Dieu attend pour nos enfants, pour chacun de ses enfants. Donc on va faire un dernier tour de table avant de conclure. Je sais que le thème est intéressant. Il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de passages à développer, mais nous croyons que l'essentiel a été dit et que les enfants de Dieu ont cerné la pensée du Seigneur. Alléluia, qu'ils ont compris. Donc on va faire un dernier tour de table, frère Anissé.
Oui, je voulais juste ajouter à ce que tu disais. En effet, j'ai aussi le texte devant moi ici de Paul, dans le livre de Romains. Nous voyons ici au verset 12. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Il parle du règne du péché, qu'il ne soit plus dans votre corps mortel. Et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Alléluia. En effet, c'est merveilleux. C'est merveilleux parce que Dieu nous a donné un parchemin. Et la loi de la justice, c'est la grâce qu'il nous a offerte. En fait, si nous comprenons bien cette grâce, nous saurons nettement mieux comment nous comporter à l'endroit de Dieu. Parce qu'en effet, cette nouvelle vie merveilleuse, elle est très luisante lorsqu'on la pratique. Mais quand on veut vivre dans le secret, en fait, nous ne profiterons de rien. Et ce n'est pas Dieu qui perdra, en fait, mais c'est vous qui perdrez. Parce qu'un peu de vous sera retiré chaque fois que vous vous mettrez à obéir à vos membres. En effet, le péché n'a plus droit de régner sur nous. Mais sauf que dans les habitudes de notre vieille nature, il arrive souvent que nous sommes tentés à vouloir faire ce qui n'est pas juste et droit aux yeux de Dieu. Or, nous avons pouvoir de dominer cela parce que Christ est mort et Christ a payé le prix. Et nous avons maintenant en nous la capacité de surpasser le règne du péché en nous. Nous devrions nous laisser simplement conduire par la grâce de Dieu. Et l'esprit qui est en nous, en effet, est celui qui nous aide à pourvoir accomplir des œuvres justes au plaisir de Dieu. Vous voyez, Dieu n'accuse pas et nous ne sommes pas là pour accuser. Quand je lisais l'histoire de la femme samaritaine, Jésus savait qu'elle avait péché. Mais regardez Jésus, dans ses propos, lorsqu'il lui a dit, tu as quatre, et tu as eu cinq maris. Oui, quand tu as eu plusieurs maris dans ta vie, la femme a dit, en effet, c'est vrai. Et Jésus, de lui complimenter, au lieu de lui dire, ah mais tu vis dans le péché. Non, 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 Jésus ne lui a pas dit cela. Il lui a simplement dit, c'est bien. C'est juste ce que tu es en train de dire. Entre autres, Dieu dans son amour ne vient pas te condamner, ne vient pas te culpabiliser. Parce qu'après que cette femme ait eu la révélation que Jésus était le Seigneur, le Sauveur, c'est Sauveur que l'on attendait, qu'est-ce qu'elle a fait? Jésus lui a dit, va, avant que je te donne cette eau, va chez toi, va chercher ton époux. Et là, en ce net moment, elle va repartir. Et quand elle repart, c'est pour annoncer la grâce. Et comment veux-tu annoncer la grâce, frère, sœur, si tu ne contemples pas dans un état d'obéissance la bonté, l'amour que Dieu a eu pour toi? Parce qu'elle doit produire en toi la paix, la joie. Or, le péché viendra te perturber. La chair viendra te perturber si tu te soumets à elle. Mais si tu laisses Dieu travailler dans ton cœur, en effet, tu vivras les délices de la grâce, la joie à perpétuité et une paix rationnelle. Amen.
Gloire au Seigneur. Donc on arrive au terme de l'émission. Je vais conclure avec quelques passages pour encore encourager ceux qui nous écoutent. Comme on l'a dit, nous ne sommes pas là pour vous condamner. Nous sommes là pour partager. Mais toutefois, de dire toute la vérité de l'Évangile parce que nous vous aimons, parce que Dieu nous a aimés. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous devons de vous dire la vérité. Galates chapitre 2. Verset 20, il est écrit, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Alléluia. En tant qu'enfant de Dieu, on ne vit plus, c'est plus nous-mêmes, c'est Christ qui vit en nous. Et la Bible nous dit, que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire que nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Et la Bible nous dit, l'Esprit de Dieu est saint. Et la Bible nous dit, n'éteignez pas l'Esprit. N'attristez pas l'Esprit et n'éteignez pas l'Esprit. Par quoi? Par le mal, par le péché, par la désobéissance, par les œuvres mortes. Mais Christ vivant en nous, nous donne la force, la puissance de pouvoir marcher comme nous devons marcher avec le Seigneur. Un autre passage dans Apocalypse. Alors, je vais le retrouver. Apocalypse chapitre 21. À partir du verset 7. Je lis à partir du verset 6. Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau vive gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'état ardent de feu et de soufre. C'est qui est la seconde mort. Alléluia. Ça, c'est la partie qui est la mauvaise partie. Lorsqu'on nous annonçons l'évangile, nous sommes obligés d'annoncer tout. C'est-à-dire que Dieu donne le conseil. Il dit, je mets devant toi la vie et la mort, le bien et le mal. C'est à toi de choisir. Il dit, choisis la vie pour que tu vives. Mais si tu décides de ne pas écouter cette parole, la Bible dit, elle ne te condamne pas. Enfin, Jésus ne te condamne pas, mais tu as déjà ton propre juge, c'est la parole que tu as écoutée. Et cette parole dit que le Seigneur va juger les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, les menteurs. Leur part sera dans l'étang ardent de feu. Pour l'éternité, ils brûleront là-bas. Mon frère, ma soeur, tu ne vas pas aller brûler dans l'éternité à cause de l'argent, les femmes, les téléphones, les habits, les voyages, les montres, la nourriture, les maisons. Non. La Bible nous dit que Dieu peut nous donner toutes ces choses. Mais il faut qu'on puisse les obtenir correctement selon la volonté de Dieu. Et je voudrais terminer avec un dernier passage. Un dernier passage dans le livre d'Hébreux. Hébreux chapitre 9. Oh là là, qu'est-ce que là cette Bible? Hébreux 9. Alléluia, Dieu est bon. Dieu est bon. Hébreux 9. Alors, je vais rouvrir le verset. Alors, un instant, je vais retrouver. Hébreux 9, le verset 14. En fait, je voulais lire un peu plus haut. Hébreux 9, le verset 14, mais je ne sais pas pourquoi ma Bible passe plus. Oui. Tu peux reprendre, ton micro était muté. Tu peux reprendre. Tu peux remonter un peu plus haut, le verset 10, je crois. Le verset 12. Alléluia. Donc, le sang de Christ a coulé à la croix une fois pour toutes pour nous purifier. Et la Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si quelqu'un reconnaît qu'il a pratiqué les œuvres mortes, le cheminement est le suivant. Reconnaître qu'il a péché. C'est quand on parle des œuvres mortes, on parle du péché simplement. Il doit reconnaître qu'il a péché. Et il doit déclencher le processus de la repentance. Parce que là, nous parlons des gens qui ont déjà accepté Jésus. Parce que hier, nous avons parlé du salut. Et aujourd'hui, nous parlons du renoncement aux œuvres mortes, du renoncement au péché. Donc là, nous parlons des chrétiens, des gens qui ont décidé de suivre Jésus. Donc, il faut reconnaître son état. Il faut lancer le processus de la repentance. Repentance, métanoïa, changement de mentalité, changement de direction. Il faut quitter le péché. Peu importe le nom de ce péché, il faut le quitter. Peu importe. Il faut le quitter. Il faut demander pardon à Dieu et prendre l'initiative, la décision de ne plus vivre dans ce péché. et demander à Dieu la force de nous aider à maintenir la décision que nous avons prise et prendre des résolutions. Vous savez, frères et sœurs, je vais vous faire un témoignage. Dans ma marche chrétienne, après quelques années de marche, j'étais tombé dans l'impudicité. Et à un moment, c'était difficile pour moi. Et je me souviens que j'étais tellement conscient que si le Seigneur revenait ou si la mort me trouvait dans cet état, je n'allais pas au ciel. Et je voulais sortir, mais c'était difficile. Et un jour, j'ai pris la décision d'arrêter avec ça. Mais je savais une chose, c'est que j'étais faible. Donc je me suis assis, j'ai fait l'analyse de la situation. Je me suis dit, le péché a fait comment pour rentrer dans ma vie et comment je tombe toujours dans le péché. Je me suis rendu compte que l'une des choses qui me faisait tomber dans le péché, je ne fréquentais plus de chrétiens. Je restais qu'avec des gens, bon, certains frères qui étaient aussi tombés. Et donc, évidemment, si tu es avec des frères qui sont tombés, ils ne sont plus forts, ils ne peuvent plus te soutenir. Vous vous encouragez même en griffe dans votre péché. Et donc, j'avais des amis non chrétiens et des chrétiens tombés. Donc, du coup, j'étais accessible au péché. On allait dans des endroits où le péché était accessible à nous. Et donc, j'ai dû faire un diagnostic, parce que c'est ça aussi quand on prend les décisions. Qu'est-ce qui m'amène dans le péché? Comment je fais pour renoncer? Et moi, j'avais compris que c'était ça le problème. Donc, tous les soirs, quand je rentrais du travail, je déposais mes affaires à la maison et j'allais rester chez un frère. Parce que je savais que le péché pouvait venir me trouver à la maison. Donc, je partais rester chez ce frère jusqu'à 22 heures. On échangeait, on communiait, on priait, on partageait, on discutait avec son épouse, on mangeait. Et 22h, 22h30, je rentrais à la maison, juste à l'heure d'aller dormir. Et quand je rentrais, je disais, Seigneur, donne-moi la force pour que si quelqu'un vient frapper à ma porte, que je n'aille pas ouvrir. Seigneur, parce que tu sais que je suis faible. Si j'ouvre la porte, je vais tomber. C'est ça, être enfant de Dieu, reconnaître ses faiblesses et aussi prendre les décisions pour corriger. Beaucoup de gens retombent dans le péché parce qu'ils ne sont pas sincères avec eux-mêmes, parce qu'ils ne prennent pas le temps de faire un bilan. Nous vous encourageons à faire un bilan et de regarder par où tu es tombé. La Bible dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé et repens-toi. Donc il faut savoir où tu es tombé. Qu'est-ce qui m'a fait tomber? La Bible nous dit que l'homme est esclave de ce qui a triomphé de lui. Donc il faut savoir qu'est-ce qui a triomphé de toi. Comment c'est arrivé dans ta vie? Quand tu vas identifier par où le péché est rentré dans ta vie, tu pourras fermer cette porte-là. Et tu pourras veiller sur elle. Et il ne faut pas se mentir. Alléluia. Il faut aller à la racine. Aller à la racine pour enlever les choses. Donc, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous garde. Vous êtes sur Radio Réveil, votre chaîne de radio chrétienne sur Port-Gentil, sur 96.